Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones.
Un frais salé, c'est le cépage endémique de notre appellation.
Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue.
Aujourd'hui, la biodynamie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche.
Média Vino Pro, le podcast vin qui va plus loin. Pauline Giraud et Clément Mine se sont rencontrés au lycée viticole d'Orange avant de multiplier les expériences en France et dans l'hémisphère sud. De ces expériences, l'envie d'écrire leur propre histoire. Elle débute en 2010 en Provence avec la création des vignobles Guessard, dont une partie des vignes est située sur les terroirs de Bandol. Pauline Giraud, Clément Mine, vignoble Guessard, une aventure viticole.
Bonjour Fabrice.
Bonjour. Enchanté de vous rencontrer.
De même, bienvenue au domaine Guessard.
Un nouveau domaine sur Bandol ou relativement nouveau?
On a créé le domaine en 2011 avec mon compagnon Clément. On commence à être bien présent dans l'appellation.
Une dizaine d'années d'implantation en tout cas. Vous êtes native et natif de la région tous les deux?
Alors non, moi je suis originaire de l'Ardèche. Clément, on peut dire que oui, il est né en Belgique, mais ses parents ont déménagé quand il avait 3 ans et il a toujours habité au Castellet, au Bossé.
Et c'est un projet de couple aussi de s'installer? Vous avez tous les deux des formations dans le vin ou pas du tout? Vous y êtes venus comment à ce projet d'installation sur Bandol?
Alors avec Clément, on s'est rencontrés au lycée viticole d'Orange où on faisait notre BTS vitiono en alternance. Lui, il était apprenti au domaine Tempier, moi j'étais à Vaqueras au sang des cailloux.
Et... Ah oui, de bonnes références tous les deux.
Ouais, on a été dans des belles maisons qui nous ont bien appris le métier. On a voyagé 3 ans après nos études, toujours en travaillant ici et dans l'hémisphère sud. En 2011, on a décidé de s'installer. Alors, dans un premier temps, on s'est installé à Sanary. On a loué un hangar où on a installé notre cuverie. Puis en 2018, on a eu la chance de déménager tout notre domaine au Bossé.
Où nous sommes là actuellement?
Exactement, avec un caveau de vente, tous nos bureaux et la cuverie, le stockage.
Si on allait la voir, cette cuverie?
Allez. Je vous emmène.
Alors, créer un domaine sur Bandol, est-ce que ça demande vraiment un courage certain?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage.
Vous avez un sourire affirmé quand oui. Je vous pose cette question.
Oui, oui, on arrive enfin à se retourner et à voir le chemin parcouru. Rien de simple quand on n'est pas issu du monde agricole et qu'on n'a pas des parents vignerons. Donc non, on a beaucoup, énormément travaillé, mais c'est notre passion. C'est vrai qu'on n'a pas réfléchi aux heures et aux sacrifices qu'il faudrait faire. Et on est d'autant plus fiers de ce qu'on a pu créer avec Clément aujourd'hui.
Vous êtes parti de quelle surface? De 0 0 0?
Zéro. Zéro, zéro. On a commencé par des locations, des fermages de terre et des achats de raisins, que ce soit en Côte-de-Provence et en Bandol, toujours dans le secteur.
Pour démarrer?
Exactement. Et puis, de fil en aiguille, à force de travail. Aussi, quand on s'est installé ici, on a commencé à être visible. On avait une assise assez confortable, un beau relationnel avec beaucoup de monde dans le métier. Et on a pu acquérir des vignes qui sont éparpillées sur toute l'appellation. C'est vrai qu'on n'est pas centré autour du domaine. Ça fait notre richesse aussi parce que ça nous donne accès à une multitude de terroirs différents. J'avoue que c'est assez complexe pour les équipes, pour travailler.
Vous avez quelle surface aujourd'hui en production?
On travaille sur un peu plus de 25 hectares, entre 25 et 30 hectares.
C'est beaucoup?
C'est très joli, on est très content. Les dernières terres qu'on a pu acheter, on a géré toutes les plantations. Donc ça, c'est une grosse fierté avec notre chef de culture, Sébastien, qui nous seconde sur toute la partie vignoble. Et qui amène un savoir-faire qui nous est très précieux.
Comment ça se passe pour acquérir des terres comme ça sur Bandol? Est-ce qu'on a un choix large, moyen ou très limité? Est-ce qu'on peut sélectionner des endroits où on prend un peu ce qu'on peut avoir?
Non, rien de simple. Il y a un moment où ça s'est aligné correctement pour nous. Je saurais pas l'expliquer. Il y a eu une part de chance. Après, on a su saisir les opportunités. Non, on n'a pas toujours eu le choix des parcelles. Après, chaque parcelle a son lot de contraintes et de choses positives. Donc voilà, on essaye de tirer le meilleur à chaque fois. Les contraintes, c'est l'éloignement des parcelles, c'est certain, et d'être morcelé. Mais en même temps, ça fait une force. On a des vieilles vignes, on a des jeunes vignes, on a des argiles, on a beaucoup, beaucoup de terroirs différents.
Vous ne faites que des bandoles? Vous avez peut-être des IGP aussi ou des Côtes-de-Provence également?
On fait une majorité de Côte de Provence et un petit peu d'IGP.
Et Bandol représente quelle proportion, je dirais, de votre domaine aujourd'hui ?
Ça représente 30%.
Vos 25 hectares, c'est votre base ? Est-ce que vous lorgnez toujours sur des parcelles qui pourraient arriver comme ça ? Ou là, vous êtes vraiment, vous avez votre équilibre ?
On regarde toujours, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe, qui bouge. C'est vrai qu'on a trouvé un bel équilibre. On met beaucoup, beaucoup d'énergie dans nos plantations, dans tout ce qui entretient des parcelles. Donc c'est vrai qu'on est pas mal occupé pour le moment. On fait beaucoup d'agroforesterie aussi, donc ça prend du temps. On met un gros accent sur le végétal, sur toutes les interventions au vignoble.
C'est déjà pas mal.
Oui, c'est très bien. On est très content du chemin parcouru.
Nous sommes donc dans votre cuverie, là, tout autour de nous. Est-ce que ça a été une difficulté, ce bâtiment absolument nécessaire à faire du vin ? Vous disiez que vous avez commencé dans un hangar.
Oui, il a fallu du temps. À Sanary, on était dans un hangar, un des seuls qui pouvait accueillir des grosses cuves parce qu'il y avait une porte conséquente. Oui, c'est compliqué. Nous, on a eu la chance de trouver ce bâtiment déjà construit. Ça n'empêche pas qu'on a fait 2 ans de travaux pour l'adapter, pour l'isoler, pour faire les pentes et les évacuations. Tout le circuit de froid, ça c'est nous qui l'avons fait avec Clément.
Vous avez un outil fonctionnel aujourd'hui, semble-t-il.
On est très content de notre outil de travail. Il y a toujours mieux. On aimerait toujours avoir un sous-sol, un stockage plus grand, c'est évident.
Si on s'avance un petit peu, donc on a beaucoup de cuves inox, où stockez-vous vos bandoles ? pas de barrique en vue, pas de foudre, que se passe-t-il ?
Il faut être un peu patient.
Ils sont cachés un peu. Hop là, d'accord.
Voilà, donc ici on a toute la partie le chai à barrique.
Donc avec des foudres et des demi-muis.
Demi-muis, foudre, et puis pour la partie Côte de Provence, on a des amphores aussi.
Ils se cachent derrière, ouais. Donc je disais que vous aviez de l'espace, en fait, vous pourriez en avoir un petit peu plus dans l'absolu.
On a fait une mise en bouteille vendredi et du coup, tout n'est pas reparti au stockage.
Que de l'inox pour la partie vinification, c'est un choix pratique. Vous n'aimez pas le béton, vous n'aimez pas la fibre ou c'est vraiment ce qui vous semble le plus intéressant et fonctionnel ?
Non, on adore le béton, le bois et l'inox. Il y a un aspect financier. On aimerait modifier, bien sûr, la cuverie et faire rentrer des cuves béton. Mais pour l'instant, c'est encore en stand-by. On a une cuve tronconique dans laquelle on vinifie et on élève aussi. Donc ça, c'est pour les rouges. Après, c'est vrai qu'on a une majorité de blanc et rosé. Donc c'est vrai que la cuve inox thermorégulée, c'est l'idéal.
Vous évoquez le côté financier. S'implanter sur Bandol, quand on est un jeune couple de vignerons, on est bien reçu par des banquiers ?
Il a fallu un peu de temps. Il a fallu montrer les bilans, les chiffres, les commandes. Oui, il a fallu quelques années avant d'être pris au sérieux, mais on a réussi.
Ça veut dire qu'il faut quand même des fonds quand on arrive sur Bandol pour créer un domaine. On ne peut pas arriver comme ça, la fleur au fusil, c'est pas possible.
Pas forcément. Nous, on est vraiment parti de zéro. Il faut du temps. Il faut commencer petit. On a eu la chance, nous, très rapidement, en 2012, de trouver un importateur aux États-Unis assez conséquent. Et c'était à l'époque où le rosé aux États-Unis avait le vent en poupe. Et on n'était pas dans les premiers, mais on n'était pas nombreux. Ça nous a beaucoup aidé à développer. La trésorerie sur des rosés rentre assez vite. On n'a pas la notion d'élevage comme dans d'autres régions. Produit en septembre, on peut commencer à vendre en début d'année. Donc c'est relativement rapide.
Au-delà des banquiers, est-ce que le monde de vignerons de Bandol est content de voir de nouveaux visages ?
On a été beaucoup aidés à notre démarrage par le domaine Tempier, par d'autres, je ne vais pas tout
parce citer. Que votre mari y avait travaillé peut-être ?
Oui, il y a ça. C'est vrai qu'on Clément était très 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 bien avec la famille Perrault et ils nous ont accompagnés dans ce qu'ils pouvaient, dans le prêt de matériel et d'autres domaines aussi. On a un bon cercle d'amis sur l'appellation. Comme toute profession, je pense que d'être épaulé, aidé, et puis on a tous les mêmes problématiques. Quand on peut se rendre service, se prêter du matériel, c'est agréable de pouvoir s'en sortir comme ça.
Alors vous me disiez tout à l'heure que vous aviez 12 îlots de vignes, hein, c'est ça ?
Oui, on est assez éparpillés. 12 îlots différents qui vont de Sainte-Anne-des-Venos jusqu'à Saint-Cyr.
Et si on allait voir, peut-être pas toutes vos parcelles, si on a 12, ça va nous prendre un peu de temps, mais au moins une peut-être, pas trop loin d'ici.
Et je vous propose d'aller voir notre petite pépite au Gourganon, donc c'est au Bossé, c'est dans la vallée du Silence. C'est une parcelle, notre plus grosse parcelle, qui fait 5 hectares.
On part donc dans la vallée du Silence, c'est ça ?
Exactement.
C'est parti ?
C'est parti.
De votre cave À Vauvigne, il n'y a qu'un pas, Pauline, et on se retrouve donc dans la vallée du silence, qui n'est pas très silencieuse aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent.
Oui, on a un joli mistral aujourd'hui. C'est assez fréquent dans la région.
Et c'est bienvenu pour les vignes, peut-être ?
Oui, c'est bienvenu, surtout dans la période où les vignes ont déjà poussé et quand on commence à avoir quelques pluies. Alors, c'est assez rare, mais quand on a des pluies, c'est vrai qu'on est très content d'avoir quelques jours de mistral derrière pour sécher les feuilles, les grappes.
Et d'un point de vue sanitaire, c'est du coup très pratique et bienvenu, ce vent.
Exactement, c'est vraiment un atout.
Vous vouliez m'amener dans cette vallée du silence, où c'est un petit peu le berceau de votre domaine ?
Oui, c'est un petit peu notre bébé. C'est vrai que c'est notre plus grosse parcelle, la parcelle qu'on a entièrement conçue et
replantée, surtout.
Ouais, et plantée. C'était à l'époque des années 70 déjà un vignoble. On a plus ou moins repris les parcelles qui existaient. C'est vrai que sur 5 hectares, on peut s'épanouir, prévoir beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'on a voulu faire de l'agroforesterie sur cette parcelle parce qu'on a de la place et que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On a beaucoup plus de résultats sur des grandes parcelles.
Agroforesterie, alors qu'on est déjà dans un environnement où la forêt est très présente.
Oui. C'est vrai qu'on a cette chance, même si c'est vrai que les pins ne cohabitent pas très très bien avec la vigne. Donc évidemment, c'est pas des pins qu'on a replantés, c'est des essences très différentes d'arbres. On a pu mettre des chèvrefeuilles, des amandiers, des figuiers, d'érables, je les ai plus tous en tête. Mais voilà, on a planté 200 arbres sur cette parcelle.
200 ?
200, ouais, que ce soit en bordure de parcelles, donc en encadrement de parcelles, ou à l'intérieur des parcelles. Donc pour séparer un cépage, voilà. Et puis ça permet aux oiseaux de pouvoir avoir un endroit où se poser, de pas avoir une grande grande parcelle à traverser. On a le projet de faire une mare aussi et aussi mettre des nichoirs pour les chauves-souris.
En fait, c'est un placement sur le moyen terme que vous faites ici.
En fait, on mise sur la biodiversité de cette parcelle pour qu'elle s'autosuffise. L'idée, c'est que tout le monde cohabite du mieux possible, que chacun des éléments, que ce soit la culture ou la nature, trouve sa place. Si tout est en symbiose, je pense qu'on aura à intervenir le moins possible, et ça, c'est le but.
Est-ce que ces plantations d'arbres, elles seraient possibles sur des vignes que vous louez, ou ça aurait moins de sens, objectivement, par rapport à l'engagement que vous pouvez avoir, ou ici, comme c'est à vous, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment.
La première problématique, c'est que sur des vignes qui sont implantées, c'est relativement dangereux d'aller planter un arbre à côté.
On pourrait perdre des équilibres.
Ouais, là, la clé de l'agroforesterie, c'est vraiment que les deux s'implantent en même temps et grandissent en même temps pour qu'il n'y ait pas de concurrence.
C'est dans les piliers ?
Ouais, c'est dans les piliers. On a aussi en priorité d'avoir un couvert végétal aussi sur les sols. Ça, c'est très important.
Ça veut dire qu'on pense son vignoble avec les arbres, avec des haies, etc., etc. Par rapport aux essences, comment on définit les essences d'arbres qu'on va mettre, par exemple ?
On n'est pas limité. Là, on a essayé de faire un mélange et pour qu'il y ait des arbres en fleurs au moment où on a des abeilles et des insectes sur la parcelle. On essaye aussi d'avoir des choses que, quand on va trogner les arbres, on va pouvoir les broyer et remettre ce broyer dans nos vignes.
D'où vous vient cette approche, ce regard ? Parce que vous êtes encore jeune et que vraiment ça fait partie des engagements de beaucoup de jeunes vignerons. C'est parce que vous créez un domaine aussi, vous avez une page blanche, du coup vous pouvez laisser libre cours à vos idées, votre vision ?
Oui, il y a un beau mélange de tout ça. C'est vrai qu'après on est assez concerné en tant qu'agriculteur sur les intrants qu'on va mettre au vignoble, en cave aussi. Et puis on a la responsabilité d'une terre qu'on va laisser. Nous on sait très bien qu'on plante pas pour nous, mais pour les générations futures.
Particularité ici, vous me le disiez tout à l'heure, vous avez de l'eau.
Alors à l'époque où on a fait des fosses pour voir ce qu'il y avait dans le sous-sol, oui, on a eu la surprise d'avoir une belle réserve en eau. On est sur la partie fraîche du bossé, donc avec les contreparties, une partie gélive en hiver, évidemment. Donc on taille assez tard ces parcelles-là pour avoir un débourrement où on a passé les gelées les plus mauvaises.
C'est un endroit, on voit des cabanes de vignes aussi au milieu des vignes que vous avez plantées, en contrebas des forêts. Ça respire le vallon de vignes ici.
Oui, ça a une vraie âme, une vraie identité. Nous, on a conservé les deux cabanons sur la parcelle. Quand on a tout déboisé, on a trouvé des puits que l'on a conservés et que l'on va remettre en état. Il y a une histoire et on en est très fiers.
Et si vous alliez me raconter l'histoire de vos vins maintenant ?
Allez, c'est parti. Retour au domaine. I am walking.
walking down the street, thinking the Lord has still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting. Feel it joy, but we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space. And the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts.
Place à la dégustation.
C'est parti.
Je vous suis, Pauline. Hop. On se retrouve dans votre cave de dégustation.
Donc Rouge Bandol, on en a deux. On a la cuvée Guessard avec l'étiquette bleue. Donc là, on est sur le millésime 2019 avec une majorité de Mourvèdre. On a 70% de Mourvèdre dans l'assemblage entre Grenache et Saint-Saulve. C'est notre cuvée, bon, j'aime pas dire classique, mais oui, c'est notre cuvée, la petite star du domaine. On est très contents de ce millésime 2019, on a un très très joli fruit, un élevage maîtrisé. Bandol, il faut savoir qu'on a un élevage de 18 mois en bois. On a une belle fraîcheur, un joli fruit et pas mal de rondeur. Particularité de nos vins, on va dire qu'on a des vins complexes, épicés, et bien sûr des vins de garde, mais on a une élégance et une finesse qui permettent de les consommer dans leurs jeunes années aussi.
Et une fraîcheur que je viens de le déguster, surprenante pour Bandol.
Oui, peut-être dû à nos différents terroirs et à notre vigilance aussi sur les contrôles maturité, même si on est quand même un peu plus à cheval sur les contrôles blancs et rosés, et on laisse les rouges mûrir à souhait. Enfin, on n'a pas de limite sur les bandoles.
Non, on a vraiment la fraîcheur est surprenante. Votre secret pour tout ça, c'est vraiment les terroirs pour vous qui apportent cette tonicité dans le vin.
Non, après il y a la vinification hein, qui entre bien évidemment. On déguste tous les jours nos vins sur des remontages. On travaille beaucoup nos vins en début de cuvaison. Plus le temps avance, moins on les touche. On essaye d'être sur des extractions douces pour avoir un tanin relativement soyeux et pas quelque chose de trop rustique.
Des cuisons de combien de temps à peu près ?
3 semaines, 1 mois, ça dépend. Ça dépend du millésime, ça peut aller plus loin aussi. Souvent on les laisse sous mare aussi, même après fermentation. Des fois il y a la malo qui vient se faufiler ou pas.
Compte tenu de vos expériences à tous les deux, comment vous répartissez un petit peu les tâches sur votre domaine ?
Si on reste sur la vinification, on y est tous les deux. C'est notre petite soupape, on quitte les bureaux au moment des vendanges. Au vignoble, on a la chance d'avoir Sébastien, notre chef de culture, qui le gère et qui le gère très bien. Donc c'est vrai que on intervient, on prend toutes les décisions tous les trois, mais c'est vrai qu'on est moins souvent dans nos vignes.
Oui, Sébastien, vous l'avez mentionné déjà 3 ou 4 reprises, c'est vraiment quelqu'un de fondamental sur votre domaine.
Oui, c'est un trio et c'est vrai que c'est un pilier. Il s'amuse aussi tout autant parce qu'il a carte blanche dans pas mal de choses au domaine, au vignoble. Après, j'ai pas cité tout le monde, mais on a Théo que vous avez croisé qui nous seconde en cave, qui s'occupe de toute la préparation des commandes, tout ce qui est étiquetage, préparation des vins pour les mises en bouteille. Non, il est aussi important.
C'est une équipe qui s'est constituée au fil des années. Vous avez commencé vraiment tous les deux au départ?
Non, on a commencé tous les deux. Sébastien nous a rejoint très rapidement. Théo est arrivé en 2019.
Est-ce qu'en vous installant, vous aviez une idée d'échelle de domaine vers lequel vous vouliez aller, ou ça s'est fait au gré des opportunités aussi peut-être de vignes à reprendre, à louer?
Non, on n'a rien planifié. Il n'y avait pas de...
Vous aviez bien un petit business plan quand même, comme tout le monde.
Alors, rapide. Rapide. Non, je pense qu'on avait beaucoup d'inconscience, beaucoup de passion. On n'avait rien planifié et puis on ne s'était pas imaginé avoir un vignoble de 25 hectares maintenant. On a eu des belles opportunités, on les a saisies avec beaucoup de travail et beaucoup d'implication, mais non, rien d'écrit.
Donc, cuvée Marcel.
Là, on est sur le millésime 2018. Marcel, c'est le nom de notre petit garçon qui est né en 2016. Et du coup, on lui a créé sa première cuvée en 2016, en rouge. Et puis on a attendu 2019 pour lui faire un rosé. Donc on a une majorité de Mourvèdre, 85%, du Grenache et un petit peu de Carignan. Donc la particularité, c'est que c'est issu de nos vieilles vignes, 2 parcelles différentes qui sont géographiquement très différentes, puisqu'il y en a une qui est à Sainte-Anne-des-Venos, sur un terroir relativement frais, une exposition fraîche. On a la deuxième parcelle qui est au Castellet, sur le terroir du Croc-du-Loup. Donc là, c'est sur le plateau du Castellet, face au village, et on est sur des argiles et des vignes qui ont plus de 60 ans.
2 parcelles qui vous semblent complémentaires dans ce qu'elles vont apporter au vin derrière ?
Oui. Relativement complémentaires, 2 parcelles, oui, qui ont une belle histoire, une belle exposition. Et c'est vrai que la cuvée Marcel, c'est un tout petit volume. On a des rendements très faibles sur ces 2 parcelles.
Quand vous dites petit volume, ça représente combien de bouteilles à peu près ?
À peu près un peu moins de 1000 bouteilles.
Ah oui, donc ouais.
Ouais.
Donc, parce que j'allais vous poser la question, pourquoi ne pas isoler ces 2 parcelles et en faire... Mais là, ça, on serait vraiment dans la micro-micro-cuvée.
Voilà. Des rendements très faibles, 15-20 hecto-hectares, d'où la petite cuve, le petit demi-muit.
Et par rapport à votre cuvée précédente, là c'est un petit peu plus votre best-seller, entre guillemets, celle qu'on vient de goûter à l'instant.
Ouais, c'est ça, c'est un peu du nectar, d'où... Et oui, on va être sur des notes plus épicées. Sur le terroir du Croc-du-Loup, on a un poivre blanc qui s'exprime, qui est très joli. Et après, à l'opposé, sur Sainte-Anne, on a une belle fraîcheur, on arrive à garder un joli fruit avec une puissance aussi. Les maturités sont poussées au maximum. On est relativement content de ce qui sort pour cette cuvée.
Vous m'avez servi un 2019 et là un 2018 avec la cuvée Marcel. Est-ce que ce sont les cuvées que vous avez à la vente aujourd'hui, volontairement ?
Oui. Oui, c'est les cuvées à la vente. Marcel, on est uniquement sur 2018 et Bandol 2019 aussi. On devrait pas tarder à changer de millésime.
Donc vous laissez un peu de temps au temps pour vendre les vins quand ils sont prêts à être dégustés ?
Oui, on essaie. Ça n'a pas été évident les premières années, mais là, on a trouvé un bon roulement. Ouais.
Alors, on sent plus de concentration, un peu plus de profondeur, plus de tanin aussi. C'est vraiment deux cuvées complémentaires pour moi. On commence par votre cuvée domaine, entre guillemets, et on finit sur la cuvée Marcel. Ça fait vraiment une progression dans la stylistique des vins.
Oui, c'est l'idée d'isoler des terroirs qui ont des vieilles vignes, voilà, de tirer le maximum de cette cuvée-là. Et c'est vrai que c'était un peu une évidence de la mettre à part et de ne pas la noyer dans la cuvée Guessard. Pour notre petit garçon, c'était aussi identitaire. Hein. Il faut quelque chose qui lui ressemble.
Alors moi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de sincérité, beaucoup de pureté dans vos deux vins. Là. Vraiment, c'est dans votre approche en vinification aussi, peut-être. Vous travaillez comment à la cave de la plus simple des façons?
Je dirais pas que c'est simple. Non, on est assez minutieux. On est très soigneux. On est très droit dans notre vinification. Je pense que au départ, ça venait de notre formation et aussi du fait que on est parti de zéro et qu'on avait des contraintes financières. Donc on peut pas se permettre de louper une cuve. Ça met une petite pression sur les épaules. Après, c'est le style au final que l'on aime. Des vins expressifs, aromatiques et droits. Marcel, c'est un peu plus un épanouissement de vigneron au bout de 10 ans de vinification. Et puis, c'est aussi ça, le métier de vigneron, c'est de pouvoir s'amuser dans sa cave, faire des essais. Des fois ça foire, des fois ça marche. Non, maintenant on s'essaye, on est un peu moins frileux.
Du coup, est-ce que vous estimez que vous pouvez aller encore plus loin dans des sélections parcellaires, dans vos vinifs, dans votre approche au sens large pour voir des vins avec encore plus de finesse, de précision, de profondeur ? Tout en gardant cette sincérité que j'évoquais tout à l'heure.
Oui, on peut toujours aller plus loin. Après, là, on est bien. La belle motivation et l'épanouissement qu'on a maintenant, c'est de récolter les raisins issus des vignes qu'on a plantées nous-mêmes. C'est un vrai bonheur. Après, voilà, c'est des jeunes vignes. Donc on voit toute l'évolution de l'appareil végétal, mais aussi de ce qu'on va récolter. Parce qu'une vigne, quand elle a 3, 4, 10 ans, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes résultats. Là-dessus, on a une marge de progression encore.
Donc là, c'est plus récolter, je dirais, de vos efforts, peut-être aussi, en vous installant et récolter les fruits un petit peu de ce dur labeur.
C'est ça. On prend le temps de regarder ça. C'est vraiment très agréable. Après, en cave, on peut toujours progresser. On est aussi accompagné par notre œnologue, Exonologie, et chaque année, on se met des petits challenges pour essayer de faire des choses différentes, de s'amuser à faire des essais. Il se passe toujours quelque chose en cave.
Vous démarquez un petit peu avec vos rosés sur Bandol ?
Oui, on a deux Bandol rosés qui sont un tout petit peu atypiques à l'appellation. On a des notes aromatiques que l'on aime énormément dans nos vins, rosés et blancs. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc Marcel, c'est les derniers raisins en rosé que l'on va rentrer en cave. Donc c'est ceux qui vont rester le plus longtemps au soleil. On cherche pas une grosse maturité, on veut pas un gros degré alcoolique, mais c'est vrai qu'on veut une maturité un petit peu différente de nos côtes de Provence. On veut gagner en complexité, donc on va aussi faire des macérations.
C'est généreux, hein ?
Ouais, on a une bouche très très complexe, assez imposante. Grosse macération, on fait la fermentation en barrique. Non pas pour le bois en lui-même, mais simplement pour éviter les maîtrises de température. Comme ça, c'est vrai qu'on gagne sur cette cuvée un aromatique différent de ce qu'on peut apporter sur nos côtes de Provence et notre Bandol cuvée Guessard aussi. C'est assez généreux. En bouche, on va chercher quelque chose d'assez rond, d'assez gras. C'est un rosé qui va faire sa fermentation malolactique et qui va faire un élevage, un petit élevage sur lit. Donc on est vraiment sur un rosé de gastronomie. C'est vrai qu'à la il va falloir que ça soit accompagné d'une planche de charcuterie fromage parce que...
Oui, plus volontiers. Ouais.
Voilà, il faut quelque chose.
C'est très sérieux comme rosé. Hein.
Oui, c'est l'aboutissement de nos nombreuses années de vinification.
Hygiène, vous mettez très peu d'intrants, pas d'intrants, comment ça se passe ?
C'est vrai qu'on est assez précautionneux sur la campagne toute la campagne de production. Très peu d'intrants, on est les premiers consommateurs de nos vins et on fait très attention. Et de toute manière, quand la matière première est impeccable et saine, il n'y a pas besoin de rajouter...
Quelle que soit la couleur ?
Quelle que soit la couleur, évidemment. Alors après, c'est vrai que les blancs et les rosés sont plus fragiles. Les rouges... Non, les rouges, c'est encore plus léger. Ouais.
Eh bien, écoutez, on va vous remercier pour le temps que vous nous avez gentiment accordé. Puis on va vous laisser déjeuner à 13h30.
Oui, ça va aller. Merci de votre visite, en tout cas.
Merci à vous.
Pauline Giraud, Clément Mine, Vignoble Guessard, une aventure viticole. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Nolwenn Moquet. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.